Bonjour à tous. En cette fin d'année, tout le monde est fatigué et je me suis proposé de vous apporter quelque chose de simple. L'histoire d'Adam et Ève, vous connaissez, n'est-ce pas? Ben, c'est là que nous allons démarrer, en tout cas. Une question a été posée à Adam. Adam, où es-tu? Et je pourrais retourner la question vers chacun d'entre nous. Moi d'abord, où en es-tu avec le Seigneur? Vous vous souvenez que la création procurait beaucoup de plaisir à Dieu, il avait une énorme satisfaction, il avait le sens du travail bien fait. Le couronnement de sa création, c'est l'homme. L'homme, un être animé, doué à l'image de Dieu, d'une intelligence, capable d'être juste, mais, oui, il y a un mais capable de pécher, capable de tomber, capable de faire des mauvais choix. Et je veux vous amener en Genèse 3, je sais, c'est de la matière de l'école du dimanche. Les enfants vont peut-être connaître cette histoire aussi bien que nous. Mais je vais en tout cas lire Genèse 3 à partir du premier verset. Après ces passages, je vais vous amener dans le Nouveau Testament, soyez rassurés. Le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais celui qui est au milieu du jardin de Dieu nous a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement, Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même de ce qui est bien ou mal. » Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Alors les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu ? » Celui-ci répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu. » Alors je me suis caché. Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répondit, « La femme que tu as placée auprès de moi, c'est elle qui m'en a donné, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela? C'est le serpent qui m'a trompé, » répondit la femme, « et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu es maudit. Parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages, tu te traîneras sur le ventre, tu mangeras de la poussière. » Tout au long de ta vie, je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. L'Éternel Dieu, au verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Puis il dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour décider du bien et du mal. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de la vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. Alors l'Éternel le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol. Verset 24. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden avec une épée flamboyante, tournoyant en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de vie. Jusque-là pour commencer. Adam et Ève ont été manipulés. Ils sont tombés dans le piège, comme on dit. Ils n'avaient pas la permission de manger de cet arbre particulier appelé arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous connaissez bien ces événements, comme je l'ai dit. Au chapitre 2, Dieu avait averti Adam de ne pas manger de cet arbre particulier. Adam aurait pu rappeler l'interdiction à Ève, mais rien n'indique dans le texte qu'il l'aurait fait. L'homme avait une responsabilité. Adam a-t-il péché par solidarité avec Ève pour éviter une scène de ménage? Nous ne le savons pas non plus. Est-ce que l'homme a pris sa responsabilité? Il savait et il a laissé faire Ève. L'homme a une responsabilité. Adam était probablement le plus coupable. En tout cas, Adam et Ève sont connus pour être à l'origine du péché et de ses conséquences, la douleur, la maladie et la mort. Adam et Ève ont pris conscience de leur nudité. C'était pas spécialement cette nudité, mais le fait qu'ils avaient fait quelque chose qui était contraire au conseil de Dieu. Il ne fallait pas toucher cet arbre. Tout de suite, ils remarquent que quelque chose se produit en eux. Quand un enfant pêche, tout de suite, il se rend compte qu'il a fait quelque chose. Parfois, un enfant rougit. À la question de Dieu, « Adam, où es-tu ? » Adam répond, « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu. Alors je me suis caché. » Se cacher derrière des feuilles d'arbre était le masque d'Adam et Ève. le masque. Nous aussi, nous portons souvent un masque. Job a dit plus tard, au chapitre 31, « Ai-je caché mes péchés comme Adam ?» Comme j'ai dit, nous avons tous l'art de cacher nos péchés et nos soucis en portant des masques. Nous sommes des artistes, nous sommes doués pour cacher. Comme je l'ai dit, certains sont très forts pour cacher leurs péchés. Je suis un commerçant et j'ai eu l'occasion au cours des années de discuter avec plusieurs patients et puis dans certaines conversations on dit oui, est-ce que vous faites du sport ou... Et puis certains patients m'ont dit oui, je fais un sport particulier, je me plais à tromper le fisc. Je me plais à tromper le ministère des Finances. Et ils ne rougissent pas. Et comme je l'ai dit, certains enfants rougissent. Et j'ai conscience que quand je fais quelque chose au travers, que j'ai chaud. J'ai l'impression que je rougis aussi. Je ne sais pas. Mais je remercie Dieu d'avoir donné cette faculté de rougir. Dieu sait tout à propos de nous. Il a demandé à Adam où il était, mais il savait parfaitement où il se cachait et pourquoi il se cachait. Mais ce qui est remarquable dans toute cette histoire d'Adam et d'Ève, c'est que c'est Dieu lui-même qui se met à la recherche de l'homme. C'est lui qui vient. Il manifeste déjà de l'amour et de la miséricorde. J'ai lu ou entendu des études à propos de la grâce. Là, c'est déjà une grâce que nous voyons, une grâce de Dieu, de s'approcher du pécheur, de le faire en quelque sorte lui tendre la main. Dieu a maudit le serpent, mais on ne lit pas qu'il maudit Adam et Ève. Leur désobéissance a déjà provoqué ce qu'on appelle la mort spirituelle. Et il a mis en branle la mort physique. Certains frères ont vu dans le don des vêtements à Adam et Ève une effusion de sang. Du sang a dû couler pour couvrir Adam et Ève d'un vêtement de fourrure. Du sang peut-être pour cacher provisoirement ce péché et pour retarder l'échéance de la mort. Au verset 15, Dieu déclare la guerre à Satan. C'est ce qu'on appelle le proto-évangile. Et surtout, Dieu annonce déjà la venue du Sauveur. C'est peut-être un petit rappel de ce qui va se passer à Noël, ou ce qui s'est passé à Noël, la venue d'un Sauveur. Ce verset est important, et il est appelé ce qu'on a aussi proto-évangile, le premier évangile qui est annoncé dans la Bible. À présent, je quitte le temps d'Adam et Ève, et j'en viens au temps de la grâce, au temps que nous sommes, le temps qui suit la première venue du Seigneur, du Sauveur. C'est l'époque d'aujourd'hui, et je veux que vous preniez vos Bibles en hébreu. Hébreu 10, dans la version qu'on utilise ici à l'église, c'est à la page 319. Hébreu 10, à partir du verset 19. « Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant, à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. » Et ici les versets sur lesquels je vais insister spécialement. « Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne délaissons pas nos réunions comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. » Jusque-là, la lecture. D'après le verset 22, nous pouvons, sur base du sacrifice de Jésus, nous approcher sans peur de Dieu. Nous ne devons pas nous cacher derrière des feuilles. Nous pouvons nous montrer tels que nous sommes. Ce qu'Adam n'avait pas osé, maintenant nous pouvons le faire volontiers. Quand nous voulons, matin, midi, soir, entre deux, nous pouvons toujours accéder au Père. N'importe quelle église est visitée par des personnes ayant un passé plus ou moins compliqué. Nous avons tous, pour la plupart ici présents, à un certain moment porté des charges ou une charge qui était beaucoup trop lourde à supporter, beaucoup trop lourde. Mais depuis que nous avons compris ce qui s'est passé à Golgotha et que nous avons accepté le sacrifice de Jésus en notre faveur et nous être repentis, nous avons pu déposer tous nos soucis au pied de la croix. Grâce à Jésus, nous avons donné une nouvelle orientation à notre vie. Nous avons même changé d'amis. Nous avons changé nos habitudes passées. Mais bien sûr, une faute grave commise par notre vieille nature nécessite parfois de porter une peine. Vous avez déjà entendu cette histoire du coupable devant un juge et le coupable dit oui, « Je suis devenu chrétien, je suis changé. » Mais il faudra que l'un des deux aille en prison. « Je vais simplement mettre, dit le juge, mettre votre vieille nature en prison. Mais votre nouvelle nature, je la laisse libre. » Quand on fait quelque chose dans la vie, on doit en porter les conséquences. Mais devant Dieu, nous sommes pardonnés. Nous avons une conscience tranquille. Donc, malgré l'assurance de notre salut, et selon les circonstances de la vie, le doute peut s'installer. On l'a chanté. Et c'est en ces moments-là qu'il est avantageux de fréquenter une église. Ceux qui ont des difficultés spirituelles peuvent les laisser voir parfois, en portant un masque de la misère. Le masque de la misère. Et pour d'autres, tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais un tel comportement, celui qui est trop optimiste, c'est souvent quelqu'un qui se montre optimiste, mais en fait, il a peur. Dans ma profession, je vois souvent des gens qui parlent beaucoup, mais en général, les gens qui parlent beaucoup et qui semblent assurés, ce sont en fait les gens qui ont peur. Ils attendent l'échéance. Ils attendent de s'asseoir dans le fauteuil, comme on dit. Comme je dis, certains ont donc un masque qui est fait sur mesure et il est presque indécelable. Notre clairvoyance chrétienne peut faire tomber des masques. C'est au cours de nos conversations hebdomadaires, ici à l'église, que nous finissons par détecter un souci ou une crainte dans la vie du frère et de la sœur. Évidemment, pour le mettre à nu, ce souci, il faut parler d'autre chose que de la météo ou comme de la semaine passée, on parlait des toilettes bouchées. C'était notre souci du jour. Le moyen le plus efficace pour aider à surmonter les difficultés s'obtient lors de ces fameuses conversations au cours desquelles la personne qui veut aider écoute attentivement et sans interrompre le miséreux. Je dis miséreux, je ne sais pas si c'est un mot très français, mais je vais l'utiliser pour désigner la personne qui a un souci, la personne qui veut cacher quelque chose. Il importe de répondre à cette personne qui étale tout ce qu'elle a sur le cœur. Il importe d'attendre pour répondre. Qu'elle ait tout dit. Et quand une personne nous dit quelque chose à propos d'un problème, il faut l'interroger, il faut la sonder, il faut lui demander de répéter. Il faut poser des questions qui n'obtiennent pas une réponse oui ou non. Il faut une question qui lui permette d'étaler les doléances d'une autre manière, avec d'autres mots. Il faut, par ces questions, s'assurer qu'on a vraiment bien compris et comprendre quel est vraiment le souci de cette personne. Tous, nous n'avons pas la capacité d'écouter, ni l'envie d'écouter les doléances de quelqu'un jusqu'au bout. Heureusement que quelques-uns, dans un rassemblement, ont reçu ce don. C'est un don de pouvoir écouter et de laisser la personne parler. Souvent, quand on voit des gens parler, ils sont en plusieurs et quelqu'un parle et il se dirige vers l'autre. Et tout est mélangé. Si on montre qu'on a de la pitié pour quelqu'un, il faut vraiment s'accrocher à cette personne. Il faut la regarder en face et s'assurer qu'on n'est pas distrait. Donc, il ne faut pas proposer de solution trop vite. Laisser parler, peut-être réfléchir un instant et puis y répondre. Les reproches sont nuisibles. Il ne faut pas dire aux gens « Oui, tu as mal fait, tu as fait ci ou ça. » Mettez-vous dans leur situation. Les Indiens diraient « Tu veux porter mes mocassins ?» Parfois, nous réagissons devant un problème d'une manière qu'un autre ne va pas utiliser. Il faut vraiment se placer dans la situation de la personne. C'est pas facile. La nature humaine est compliquée en plus. En tout cas, où je veux en venir, c'est de faire de notre église un lieu agréable, un lieu d'écoute, un lieu où on peut parler librement à la personne. Je ne dis pas qu'il faut tout dire. Si vous voyez quelqu'un s'approcher avec lequel ou avec laquelle vous n'êtes pas en bon terme, il ne faut pas dire à l'autre « Oh, qu'est-ce que je déteste celui-là ». Ce qui se passe dans notre tête, il vaut mieux parfois le taire. Pas nous encourager les uns les autres avec des paroles de l'Évangile, de pouvoir parler de tout autour d'une tasse de café ou de thé. Nous pourrions nous encourager. On a besoin d'encouragement. On a besoin d'une petite tape dans le dos de temps en temps. Une sœur dernièrement m'a offert un CD parce que je n'ai pas eu l'occasion de participer à la fête de Noël et je la remercie pour ce qu'elle a fait. On pourrait discuter de la prédication du jour. Oh, le Belge a encore dit quelque chose avec lequel nous, Français, on n'est pas d'accord. La vie avec Christ doit être stimulée dans la vie des gens. Vivre avec Christ, c'est vraiment merveilleux. Et en plus, on a un bon livre. On a tous acheté ce livre chez Onésime. On a tous une Bible. C'est une référence. Elle regorge de bons conseils, des conseils utiles. Et c'est d'ailleurs ce qui fait son succès. Si quelqu'un veut s'engager avec moi, je me suis promis à moi-même, évidemment. Vous allez dire, oui, c'est un... Mais quand on promet à quelqu'un d'autre, je veux m'engager aujourd'hui à lire la Bible entièrement en un an. C'est important de la lire en un an parce que, comme je dis, elle regorge de conseils et je veux tout savoir et le plus vite possible. Mais ça demande un effort considérable de lire 4 chapitres par jour. Et pour ça, il faut être à 2 au moins, ou à 3, c'est mieux. Ou toute l'église, pourquoi pas. Nous pourrions avoir des sujets de discussion communs. En tout cas, c'est mon défi pour 2020. Quand nous sommes nés de nouveau, nous nous accrochons à Jésus, qui est notre médiateur auprès de Dieu. C'est vraiment une chance d'avoir quelqu'un au ciel. Et Jésus au ciel, ce n'est pas un esprit, c'est quelqu'un comme nous qui est ressuscité. C'est un homme. Le premier homme au ciel, c'est Jésus. Nous pouvons nous adresser à lui, il écoute, il nous comprend, car il s'est incarné, il a été homme comme nous. Et il est homme comme nous, à part le péché, bien sûr. Le Seigneur Jésus doit être au centre de toute vie, de la mienne aussi. Il faudrait que tout ce qu'on décide passe par là. Tout ce qu'on décide doit se passer avec le Seigneur. On ne veut plus rien faire sans lui. Tout avec lui et pour lui. Et à l'exemple de Néhémie qui allait voir l'empereur, nous pouvons prononcer une prière brève qui va certainement influencer la conversation que nous pouvons avoir avec un non-croyant. Ça nous met dans un autre état d'esprit, ça nous rend calme, ça évite de nous exciter, de répondre trop violemment parfois. Ça influence nos conversations. Ici à l'église, nous sommes disposés à aider celui qui est dans le pétrin, comme on dit, nous sommes une communauté où l'amour est palpable. Moi, je le sens, cet amour. Nous sommes en état de ressembler au Jésus des évangiles. Aider celui qui souffre à aimer le Seigneur, ça aiderait à diminuer l'amour du péché dans cette vie. Parce que quand on met le Seigneur vraiment au centre et qu'on lui donne toute la place, il n'y a plus de place pour autre chose. Cette autre chose ne va pas devenir envahissant. La communauté doit rester soudée autour de celui qui souffre. Parfois, celui qui souffre, on le laisse à l'écart. Non, il faut s'approcher de lui. Il faut se décarcasser pour que la personne souffrante se sente bien ici. Il faut lui donner envie de revenir la semaine prochaine. Si on laisse quelqu'un s'éloigner du rassemblement, quelqu'un qui est souvent si seul, ou qu'on peut sentir si cette personne est intéressée par le Seigneur, si cette personne est intéressée par la vie en communauté, si cette personne reste à la maison, si elle regarde la télé ou qu'elle tapote sur son ordinateur, elle ne va pas apprendre grand-chose. On est vite tenté d'aller sur des écrans où il ne faudrait pas aller. Passer du temps avec la personne qui souffre aide. Elle l'aide à laisser tomber son masque. Elle devient vraie. Elle raconte ses soucis. L'Église est aussi l'endroit où on apprend des autres. Apprendre comment un autre chrétien a réagi devant un certain problème, c'est un sérieux pas en avant. C'est un exemple. Pas à suivre à la lettre, mais à s'inspirer. Établir une relation avec Jésus est souvent la clé du problème. Il faut amener la personne qui souffre vers le Seigneur. Comme j'ai dit, il ne faut pas faire de reproches, mais il faut l'approcher du Seigneur Jésus, qui donne réponse à énormément de problèmes. Et je le répète avec ce verset de l'apôtre Paul, je ne sais pas si c'est Paul finalement qui a écrit aux Hébreux, mais en tout cas de celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, il est important de ne pas abandonner son Église afin de rester connecté aux autres disciples de Jésus. Nous sommes à l'aube de l'année 2020. Essayons au cours de cette année de faire tomber des masques, à parler sincèrement avec les gens, à les faire connaître mieux le Seigneur, à les faire aimer le Seigneur, à donner au Seigneur beaucoup plus de place. Lors des rencontres que nous avons, nous voulons voir si la personne souffre, nous voulons être attentifs, nous voulons être auprès de l'un et de l'autre, ou de l'une ou de l'autre. Lors des agapes et des réunions en semaine, à force de nous rencontrer, nous apprenons à nous connaître mieux et à établir des relations de confiance. Au fil des conversations, les masques vont tomber. Quand on vit près du Seigneur, les masques tombent. On se montre comme on est, on se montre authentique. Des faux semblants deviennent transparents. Des soucis habilement cachés se dévoilent. Les guérisons offertes par Jésus sont possibles. L'amour chrétien exige parfois des mesures douloureuses. Mais ces mesures douloureuses sont faites pour sauver le pécheur. Quand nous voyons que quelqu'un est engagé dans une mauvaise voie, il ne faut pas dire « hein, si ou ça » pour lui dire « est-ce que par hasard, je remarque que tu viens moins souvent à l'église, est-ce que... » Mais il ne faut pas attirer sur le problème. Ça crée des barrières tout de suite. Ça chasse les gens de l'église. L'amour chrétien exige des mesures douloureuses, comme je dis. Mais on le fait pour sauver le pécheur, et même pour sauver toute l'église. Aimer, c'est être sincère et vrai, comme je l'ai dit. La personne que nous voulons aider doit avoir un repère, quelqu'un de sûr, quelqu'un qui vit auprès du Seigneur, et nous voulons lui donner quelque chose, nous voulons lui offrir l'expérience de notre vie. Aimer, c'est s'efforcer d'approcher celui qui est nouveau, d'approcher celui que nous n'avons jamais vu, quelqu'un qui est seul, quelqu'un qui se tient au pourtour du troupeau, quelqu'un qui risque de se faire happer par le malin. Aimer, c'est bien plus que des sentiments, c'est bien plus que sourire, c'est bien plus qu'une poignée de main. Aimer se manifeste par des actes. Aimer à l'église, c'est donner du temps, c'est donner de l'attention. Aimer, comme je l'ai dit, fait tomber des masques. Aimer et se sentir aimé, uni. Aimer maintient ensemble. Se sentir aimé et compris fait revenir. Aimer laisse parler jusqu'au dernier mot avant de répondre. Aimer, c'est parler avec l'autre de notre route avec Jésus. Aimer, c'est reporter toute attention sur Jésus. Aimer mon prochain, c'est marcher avec lui pour lui révéler davantage à propos du guérisseur des âmes, à propos de notre Seigneur. Jamais plus notre interlocuteur ne portera un masque s'il sait qu'ici nous avons le Seigneur au milieu de nous et qu'on le met à la première place. Il ne faut pas porter un masque pour se faire accepter dans cette communauté. Il faut venir tel que nous sommes, nus comme Adam peut-être. Celui qui sera mis en contact avec le Seigneur deviendra très probablement quelqu'un qui voudra faire de nouveaux disciples. il va lui-même parler du Seigneur autour de lui-même. Êtes-vous comme moi? Est-ce que le Seigneur est votre joie? Où en sommes-nous avec le Seigneur? Où sommes-nous? Nous sommes sauvés et nous avons pu chanter ce matin « Abba, Père, avec le Seigneur Jésus, nous pouvons dire à Dieu lui-même, Père, Père. » Quand vous apprenez à parler à un enfant, moi je remarque souvent que les premières choses qu'il dit c'est « Abba, Abba. » Est-ce que c'est un signe que nous avons besoin du Seigneur? Est-ce qu'on revenir auprès du Seigneur? J'en suis persuadé. Lui seul a la réponse à tous nos problèmes. Et nous avons Jésus. Jésus qui a eu un corps comme le nôtre, qui s'est approché de la créature au plus près, qui sait comment elle est faite et le créateur. Il sait ce que nous avons besoin. Efforçons-nous de lire ce livre au cours de cette année. Je l'ai déjà dit et répété, c'est un recueil de lettres d'amour qu'il faut lire absolument car elles nous sont adressées. Amen.